Le groupe de recherche et d'études sur la radio présente Exposé par Christophe Deleu.
Épisode 2, le documentaire à la radio, première partie.
Dans le cadre d'Engrenage.
Nous avons vu que les formes à la radio étaient standardisées. Souvent, la radio est une radio de studio ou de direct. Il faut donc saluer les volontés de briser les formes, comme celle de Radio Grenouille en 2006, autour de la résidence à Marseille de Nicolas Frise, prenant pour thématique la poste en tant que service public, les facteurs, la correspondance. Radio Grenouille, créant une émission quotidienne temporaire, a multiplié les formes, recueil de paroles de salariés de la poste, enregistrement des sons de la poste, débat, extrait littéraire, avec comme point d'orgue la création musicale de Nicolas Frise. Ce projet, marqué par la volonté de défendre un service public malmené, associe les salariés de la poste dans la conception elle-même des programmes et laisse transparaître une volonté de faire se télescoper plusieurs genres radiophoniques différents dans une même émission. C'est la thématique retenue qui fait ici lien et permet d'envisager des créations de programmes non figés, comme dans une grille, mais éclatées autour d'une idée qui les rassemble au gré des projets. Ce type de concept n'est pas très développé, il faut bien le dire, mais laisse entrevoir des pistes pour la radio, à condition de faire voler en éclats les carcans. Autre forme originale, l'expérience Café de Verre, inspirée par une publication imprimée, paraissant deux fois par an et mêlant nouvelles, poèmes, journaux intimes. Radio Grenouille a proposé une version radio équivalente le 11 février 2006. C'est cette juxtaposition stochastique et sa durée 8 heures sans interruption qui en font aussi un programme d'exception dans l'offre radiophonique. Aujourd'hui et demain, regard sur une forme radiophonique plus répandue que ces deux exemples, mais néanmoins marginale, le documentaire, avec une proposition pour étudier les formes qu'il revêt. Le documentaire est un genre plutôt rare à la radio. Ce phénomène s'explique pour les raisons suivantes. D'abord, la matière sonore recueillie grâce à des procédés d'enregistrement nécessite un travail de montage, ce qui exige davantage de moyens financiers que les émissions en direct et en studio. Jugé peu rentable par les radios privées, le documentaire n'est donc diffusé que sur les radios de service public, France Culture, France Inter, sur quelques radios associatives, Canal Sambre, Radio Grenouille, et sur le web, Arte Radio, Bloc Sonore. En outre, le documentaire s'accommode mal des représentations classiquement rattachées à la radio, celles d'un média d'accompagnement, qu'on écoute en faisant quelque chose, et celle d'un média du direct. Néanmoins, le documentaire radiophonique intéresse une partie du public. Il est diffusé dans des festivals de radio, comme Longueur d'onde à Brest, Funurgia à Arles, Sonore à Nantes, Radiophonique à Bruxelles, Engrenage ici à Marseille. De surcroît, il est parfois considéré comme une création ou une œuvre d'art. Celui qui le conçoit a le statut d'auteur, reconnu par la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, des prix nationaux, prix SCAM, prix Gilson, et internationaux, prix Italia, prix Europa, prix New York, récompense les meilleurs auteurs. Des séances d'écoute sont organisées dans des salles de cinéma ou autres lieux, par Arte Radio ou la SCAM. Le documentaire radio s'enseigne aussi, à l'université de Poitiers, à l'école Louis Lumière à Paris, dans des écoles de journalisme, au CELSA à Paris, à l'ESJ de Lille, au QEJ de Strasbourg. Des stages de formation sont organisés. La FRANF, Fédération des radios associatives du nord de la France, en 2005, Radio Grenouille, en partenariat avec Arte Radio. Le documentaire n'est pas né avec la radio. Il a fallu beaucoup de temps pour que la radio puisse enregistrer le réel avec les conditions légères, à partir, dira-t-on, de l'utilisation du nagra dans les années 50. Si, à cette époque, la radio est avant tout une radio de studio, elle ne s'interdit pas d'aller à l'extérieur pour capter du son. En 1955, sur la RTF, on peut ainsi entendre, dans l'émission Documents, un reportage d'une cinquantaine de minutes sur le pipeline de Parentis. Dans une forme qui ressemble à celle du magazine Interception sur France Inter, Henri Sadorge va à la rencontre de ceux qui côtoient le pétrole de très près. Le réel commence à exister dans une forme qui préfigure celle du documentaire. Dans une émission intitulée « Le royaume de l'air », diffusée toujours sur la RTF en 1956, on perçoit déjà la volonté de juxtaposer plusieurs interventions enregistrées en studio ou dans un endroit silencieux et des extraits littéraires. Le montage est encore linéaire, toutes les interventions des participants semblent écrites, mais on sent déjà ce désir d'aller au-delà de l'entretien traditionnel à la radio. Plus tard, l'atelier de création radiophonique sur France Culture, en 1969, ou les émissions de Claude Villers sur France Inter, à partir de 1975, iront plus volontiers vers l'extérieur pour chasser les sons. Nous proposons ici un modèle théorique d'analyse du documentaire radiophonique pour appréhender la spécificité du genre. Au départ, il y a l'identification des sons. Pour classer les sons, nous proposons la typologie suivante. Voix de l'instance médiatique, voix hors média, ensuite témoin, expert, représentant, politique, syndical, voix de comédien, extrait sonore, théâtre, cinéma, livre, musique, jeux vidéo, son d'ambiance et d'archives. On pourrait y ajouter les silences. Petit 1, voix de l'instance médiatique, voix d'explication ou voix de narration. La voix de l'instance médiatique s'oppose à la voix hors média. Premièrement, la voix de l'instance médiatique peut être une voix d'explication, qu'on nommera VE. C'est la voix qui commente, qui a une visée informative, la voix journalistique par définition, neutre et objective. Le recours au jeu est en principe interdit. Deuxièmement, elle peut être une voix de narration, qu'on nommera VN. C'est la voix qui raconte, celle qui a une visée pathémique, faire ressentir une émotion ou d'incitation à entrer dans un univers. Elle peut avoir recours au jeu, s'articuler autour d'un récit personnel ou d'une forme particulière, comme le conte, la description subjective d'un document, film, photographie. La voix d'explication met à distance l'auditeur en rappelant de façon explicite son appartenance à l'instance médiatique, tandis que la voix de narration introduit une relation de proximité avec l'auditeur en introduisant le flou sur son statut. Petit 2, voix hors média. La voix hors média, VHM, c'est celle de l'interviewé, qu'il soit témoin, expert, représentant. Nous nous attacherons d'abord à analyser la façon dont le média radiophonique présente l'interviewé. Est-il possible de procéder à une dénomination de cette voix, identifier le locuteur, son nom, sa fonction, et ou à une détermination, prénom, marque de déférence, emploi d'un possessif. On aura ainsi d'abord la VHMA avec dénomination et ou détermination de la voix média, et ensuite on aura la VHMB sans dénomination ni détermination de la voix hors média. Dans le cas d'une VHMB, il ne sera pas toujours possible d'identifier la voix qui s'exprime. Il existe aussi un procédé radiophonique qu'il faut ici mentionner, car il peut remettre en cause notre classification si on ne s'attarde pas sur ses spécificités. Dans certaines émissions, les interviewés se présentent eux-mêmes, nom, prénom, fonction. Il s'agit d'une technique radiophonique qui permet à l'instance médiatique, avec la complicité de la voix hors média, de s'effacer, de ne pas effectuer elle-même de dénomination, qui peut apparaître comme un académisme radiophonique. Mais comme toute innovation, ce procédé est lui-même devenu un cliché. Il est bien évident que grâce à celui-ci, et malgré l'effacement de l'instance médiatique, l'auditeur sait immédiatement qui parle. Dans un second temps, on étudiera si le documentaire donne à entendre la trace de la médiation sonore qui a conduit à recueillir la parole, question ou commentaire de l'instance médiatique lors de l'interview. On aura ainsi d'abord une VHM1, voix hors média avec trace sonore de la médiation entre l'instance médiatique et la voix hors média, une voix hors média 2 sans trace sonore de la médiation entre l'instance médiatique et la voix hors média. Comme pour la voix de l'instance médiatique, la voix hors média peut être en action ou statique. Jusqu'à présent, nous n'avons défini la voix hors média qu'à travers le statut d'interviewé. Mais dans certains cas, la voix hors média sera de nature différente. Situation de type radio-vérité, où le média est un capteur d'une tranche de réel et où la voix de l'instance médiatique n'intervient pas pour poser des questions. D'autres expériences, comme le don du micro à la voix hors média, permettent à celle-ci de s'interviewer en dehors de la présence de l'intervieweur. Petit 3. Voix de comédien. Dans les dispositifs documentaires, on entend aussi des séquences proches de la fiction. Des comédiens lisent des textes, littérature, documents officiels, etc. Parfois même, des séquences dialoguées se font entendre. Nous proposons donc de distinguer les séquences intégrant la dénomination du comédien et la nature du texte lu, des séquences sans dénomination ni référence au texte lu. Petit 4. Extrait sonore. Il en va de même pour les extraits sonores, films, pièces de théâtre, musique. Tous ces fragments composent un univers sonore fictionnel qui s'ajoute à l'univers documentaire. Comme pour les extraits lus par un comédien, on distinguera ceux dont la source est précisée à l'auditeur de ceux qui sont de nature floue. Petit 5. Son d'ambiance, silence, archive. Ces sons sont aussi à prendre en considération pour l'étude du documentaire, car ils participent à la construction d'un univers sonore autonome et distinct de l'émission de plateau. Après l'identification des sons, il faudra procéder à l'étude des rapports entre ces sons. Car l'identification des sons ne sera qu'une première étape dans l'étude documentaire. Car celui-ci ne peut pas se réduire à une juxtaposition des sons, aussi différents soient-ils. C'est le rapport entre ces sons auquel il faudra s'attacher. En radio, il n'existe que deux procédés pour passer d'un son à un autre. Le cut et le mixé, pour reprendre la terminologie des professionnels. Le cut, c'est l'opération par laquelle un son succède à un autre son, sans qu'aucun autre ne vienne les relier. L'auditeur peut entendre la frontière entre les deux sons de façon immédiate. Par exemple, un interviewé B succède à un interviewé A. Le mixé, c'est l'opération par laquelle un son succède à un autre son, soit en se mélangeant à lui, une ambiance du son A qui se prolonge sous le son B, soit parce qu'un troisième son, C, vient les unifier. Son d'ambiance ou musique s'introduisant sous le son A et se prolongeant sous le son B. La frontière entre les sons est ici plus floue, l'auditeur sera moins conscient du passage d'un son à un autre. Nous analyserons aussi le rapport entre les différents groupes sonores. Pour étudier le rapport entre les voix et les sons d'ambiance, nous pouvons reprendre, en l'adaptant pour la radio, l'opposition de Chion, en 2003, entre les sons qu'il nomme anempathiques, pour nous, effet d'indifférence entre la voix d'un interviewé et le fond sonore, bruit de sirène de police qui n'ont aucun rapport avec le thème de l'interview, et les sons empathiques, effet provoquant une harmonie entre une voix et un fond sonore. Bruit de la roulette d'un dentiste dans une émission sur cet instrument. Des effets particuliers pourront être mis en avant. Une musique figurant en fond sonore lors d'un enregistrement pourrait être relayée au mixage par un extrait de cette même musique, mais qui proviendra cette fois d'un disque. D'autres critères pourront aussi être pris en compte en fonction des objectifs de la recherche, comme la durée des fragments ou la description des voix. Certes, ce dernier élément peut apparaître subjectif, mais le rapport entre une voix et son auditeur est un élément essentiel dans le dispositif radiophonique. Comme Arnheim l'écrivait en 1936 dans l'ouvrage Radio, nous pourrions défendre l'idée que la sonorité est plus importante que le sens. Des procédés de montage empruntés au genre littéraire seront aussi utilisés, comme la répétition, les rimes, l'ellipse. Nous verrons demain comment cette grille d'analyse peut être adaptée à deux émissions, Atelier de création radiophonique et Interception.
Le groupe de recherche et d'études sur la radio a proposé à la grenouille de venir faire sa dissection. Quel peut être le devenir d'une radio culturelle locale à l'heure de la révolution numérique et de l'accélération de l'hégémonie des grands réseaux de communication? Retrouvez l'exposé de Christophe Deleu du 19 au 24 mai à 10h sur les 3-8. Rendez-vous au débat public sur les enjeux de la radio aujourd'hui, le dimanche 25 mai à 16h à Montevideo. Et après l'événement, ne ratez pas le témoignage critique de Christophe Deleu sur son expérience vécue à Engrenage le samedi 7 juin à 15h sur le 88.8. Pour plus d'informations sur Engrenage, www.grenouille888.org.